Madame la représentante spéciale, bonjour.
Bonjour.
Voilà 2 ans que vous êtes à Bangui. Quel bilan faites-vous des 2 dernières années d'action de la MINUSCA?
Je vous remercie. Dès mon arrivée, j'ai tenu à me concentrer sur un certain nombre de priorités qui ont été discutées avec le gouvernement, qui est notre pays hôte, et qui depuis ont été cristallisées dans notre stratégie politique de la MINUSCA. Mais je vais peut-être vous les mentionner. Il s'agissait en priorité urgente pour moi de rétablir une coopération productive avec le gouvernement centrafricain et notre pays hôte. Il s'agissait ensuite de concentrer nos efforts dans l'amélioration et la consolidation de la situation sécuritaire et les défis sécuritaires qui restaient persistants. Il s'agissait enfin de revitaliser l'accord de paix et de réconciliation qui a été conclu entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019 et dont la mise en œuvre avait été ralentie après qu'un certain nombre de signataires se soient retirés de cet accord. Et bien sûr, une autre priorité pour nous, pour la MINUSCA, était véritablement de faire plus et aller plus loin dans la présence de l'État sur son territoire, la présence et l'autorité de l'État sur ce large territoire centrafricain, et d'aller un petit peu plus loin dans la présence de l'autorité de l'État. Et par cela, je voulais dire aller étendre l'autorité de l'État dans des zones où l'État avait été absent pendant des décennies. Et l'État dans toutes ses fonctions, tant dans ses fonctions administratives que sécuritaires. Et enfin, un élément auquel nous sommes encore en train de travailler et auquel nous tenons, pouvoir traduire finalement les acquis de sécurité, les traduire en dividendes de stabilité pour les populations, en mobilisant les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux, à pouvoir investir dans des services socio-économiques au bénéfice des populations. Donc cela a été un cahier de charges ambitieux, large pour la mission, mais c'est un cahier de charges auquel nous avons travaillé et avons enregistré les résultats au courant des 2 dernières années.
Alors, selon le Bureau de coordination de l'action humanitaire en Centrafrique, la violence a baissé de 25% en 2023 par rapport à 2022. Est-ce que vous confirmez et est-ce que la tendance est toujours à la baisse ou est-ce que malheureusement il y a une nouvelle hausse de la violence en ce début d'année 2024?
Il y a effectivement une baisse de la violence et une augmentation de la sécurité aussi, et cela est dû aux efforts conjoints du gouvernement et de la MINUSCA. Ce ne sont certainement pas des résultats qui ont été atteints par la MINUSCA seule, mais il réside encore des poches d'insécurité et l'essentiel de ces poches d'insécurité reste concentré aux frontières. La situation sécuritaire n'est pas statique et il faut dire que la Centrafrique est un pays enclavé. La Centrafrique a comme pays voisin également le Soudan et donc elle a subi de plein fouet, elle continue à subir les effets de la guerre au Soudan à sa frontière nord-est par le passage d'un certain nombre de réfugiés et d'un grand nombre de retournés centrafricains qui à l'époque étaient allés au Soudan justement à l'époque de l'insécurité aggravée en Centrafrique.
Depuis l'accord de Khartoum de 2019, 6 des 14 groupes signataires ont abandonné l'accord. Est-ce que cela n'est pas inquiétant pour l'avenir ?
Je dirais qu'il faut déjà peut-être appuyer sur les acquis qu'il y a eu entre-temps depuis la revitalisation de cet accord. Il faut dire qu'effectivement, au moment de la crise de l'année 2020 et 2021, ces 6 qui avaient quitté pour former cette coalition de la CPC, eh bien, il faut dire qu'il y a, depuis lors, un certain nombre d'engagements qui ont eu lieu et plusieurs de ces groupes sont revenus dans l'accord, plusieurs des groupes signataires. Il y a notamment, depuis la mi-2022 et tout au long de 2023, il y a un total de 9 entités, très exactement 6 groupes et 3 branches qui ont accepté volontairement de déclarer leur dissolution. Cela, bien sûr, ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer les efforts pour que les groupes qui étaient signataires et qui ont quitté l'accord reviennent. Vous vous souviendrez qu'à la fin de l'année dernière, en novembre, l'un des leaders de l'un de ces groupes qui avait quitté l'accord a déclaré son intention, sa décision de se défaire de cette coalition. Et donc, je sais que des discussions sont en cours. Donc, ce n'est pas un processus statique, c'est un processus qui reste dynamique, mais qui demande des engagements, qui sont souvent, bien sûr, des engagements politiques et diplomatiques assez confidentiels.
Quel est le mouvement qui vous pose encore le plus de problèmes en termes d'insécurité? N'est-ce pas le mouvement des 3R?
Le mouvement des 3R est une préoccupation effectivement d'insécurité dans la partie ouest du pays. Les méthodes du mouvement de 3R, il y a des attaques très claires sur les populations, ciblant les populations civiles, mais les méthodes du groupe 3R sont des méthodes qui ont recours à des engins explosifs. Et cela est un défi récent. Les premiers engins explosifs en Centrafrique ont été, les premiers incidents d'engins explosifs ont été notés en juin 2020. Et donc, nous travaillons beaucoup avec le gouvernement centrafricain, surtout avec les forces armées, pour construire leur capacité de déminage et cela est en train d'avancer. Nous travaillons aussi avec l'Agence des Nations Unies qui est en charge du déminage, UNMAS, et bien sûr au niveau de la force de la MINUSCA, nous faisons en sorte d'avoir des équipes de déminage au sein de la force. Donc nous agissons sur tous ces fronts. Mais ceci pour vous dire, oui, les 3R restent un mouvement de préoccupation, même si aujourd'hui il n'y a pas d'idéologie. Ce sont des objectifs de prédation qui ciblent essentiellement le contrôle de certaines mines dans la partie ouest du pays.
Vous avez rencontré récemment le chef d'état-major des FACA, les forces armées centrafricaines. Sur le terrain, comment ça se passe? Vous faites des patrouilles mixtes?
Je dirais que nous avons une très bonne collaboration et coopération ensemble et cela, clairement, c'est l'une des avancées du travail qui a été fait au courant de ces 2 années. Notre coopération se traduit justement par un mieux faire, plus faire ensemble. Et ce mieux faire, plus faire, ce sont, oui, des patrouilles mixtes, mais c'est aussi un soutien au déploiement, y compris dans des zones où les forces armées centrafricaines n'ont pas été présentes, pas seulement depuis que la MINUSCA est là, mais n'ont pas été présentes depuis des décennies. Nous avons eu l'opportunité de le faire à la frontière avec le Soudan, dans des zones comme Samwanja, aussi à la frontière avec le Soudan, à Amdafok, et à la frontière au sud-est du pays. Donc, nous arrivons à faire beaucoup plus ensemble, en patrouille mixte, mais aussi en échange d'informations et en déploiement plus intense.
Et vous avez assez d'équipements, Madame la représentante spéciale. Vous êtes à la tête de 14 000 casques bleus, mais est-ce qu'ils sont suffisamment équipés pour un pays de 500 000 km2? Est-ce qu'il ne faut pas faire plus au niveau du Conseil de sécurité?
C'est un défi, M. Boisvouvier, c'est un défi très clair et je saisis l'opportunité de vos antennes larges. Ceci est un défi très clair que j'ai porté à l'attention du Conseil de sécurité. Dans un pays comme la Centrafrique, nous avons besoin de beaucoup plus de capacités logistiques. Il s'agit d'un immense pays, mais où il n'y a quasiment pas d'axe routier. Il s'agit aussi d'un immense pays où pendant 7 mois de l'année, ce sont de très fortes pluies, où même les axes qui sont réparés par la MINUSCA pour permettre l'accès et la mobilité de la force sont aussitôt détruits par une saison de pluie. Donc clairement, nous sommes aujourd'hui à une phase où pour stabiliser et consolider les acquis, nous avons besoin que d'autres partenaires, et ici je pense aux partenaires bilatéraux, aux partenaires multilatéraux, investissent dans des projets tels que des projets d'infrastructure, investissent dans des projets qui vont permettre de consolider ces résultats. Et donc, il est très bienvenu que la Centrafrique soit en train de renouer un certain nombre de partenariats bilatéraux.
Alors, il y a les FACA, les forces armées centrafricaines, il y a la MINUSCA, mais il y a aussi d'autres forces de sécurité sur le territoire centrafricain, notamment les quelques 2000 paramilitaires russes. Il y a quelques semaines, le ministre centrafricain de la communication, Maxime Balalou, a déclaré que des soldats russes se déployaient dans le sud-est de la République centrafricaine pour faire face à la montée de l'insécurité. Est-ce à dire que vous cohabitez, voire faites des patrouilles mixtes entre la MINUSCA et ses paramilitaires russes?
Alors, cela, je peux vous dire, absolument pas. Effectivement, nous intervenons sur un terrain où il y a plusieurs acteurs. Cependant, nos mandats sont différents, nos modes opératoires sont différents, nos redevabilités également sont différentes. Notre mandat est un mandat de protection des populations civiles. C'est un mandat de soutien à l'extension de la présence et autorité de l'État. Comme je vous l'ai dit il y a l'instant, c'est un mandat aussi de facilitation de l'accès humanitaire et c'est un mandat de protection du personnel et des propriétés des Nations Unies. Donc voilà, notre mandat est très clair. Notre mode opératoire, c'est un mode opératoire de travail avec les forces centrafricaines, pas avec d'autres personnel de sécurité et notre redevabilité est connue. Nous sommes redevables aux membres des Nations Unies, au Conseil de sécurité et au siège des Nations Unies.
Oui, mais sur le terrain, en province, notamment dans les régions reculées comme le sud-est aux confins du Soudan du Sud, les casques bleus, ils côtoient les autres forces de sécurité qui sont là. Et comment ça se passe, cette cohabitation, notamment avec ces forces de sécurité russes? J'imagine qu'il y a quand même, ne serait-ce que des échanges d'informations, non, contre les rebelles ou contre l'insécurité?
Eh bien, ces échanges n'existent pas. C'est pour ça que je n'utiliserai pas le mot de « côtoyer ». Parce que nous opérons de manière différente, de manière parallèle. Si parfois il y a besoin absolument d'avoir un échange d'informations, eh bien nous le faisons par la partie centrafricaine et les forces centrafricaines sont les forces avec lesquelles nous coordonnons. Et donc je suppose qu'elles jouent le rôle de coordination avec tous ceux qui sont invités sur leur territoire.
Oui, vous avez dit il y a quelques semaines que certaines de vos patrouilles de casque bleu avaient eu des difficultés d'accès dans certaines régions de la République, à cause notamment du blocage opéré par des paramilitaires russes. Comment ça se passe dans ce cas-là? Vous faites appel aux autorités centrafricaines pour débloquer la situation?
Absolument. Dans ces cas-là, nous faisons appel aux autorités locales. Pas besoin de remonter au niveau central. Nous faisons appel aux autorités locales. Et quand cela ne peut pas être résolu par les autorités locales, que ce soit les autorités locales civiles ou militaires, eh bien à ce moment-là, le leadership des FACA est saisi.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, souvent, la question est résolue. Il est clair que nous sommes ici à l'invitation du gouvernement centrafricain. Nous attendons donc que le gouvernement centrafricain mette en place toutes les conditions optimales pour la mise en œuvre effective et optimale du mandat de la MINUSCA.
Et donc, vous travaillez au respect des casques bleus par toutes les autres forces de sécurité présentes en territoire centrafricain, y compris par les paramilitaires russes?
Absolument. Cette relation qui a été rétablie est dans laquelle nous réinvestissons et nous avons réinvesti, est une relation qui est basée sur le respect. Le respect de notre mandat, la confiance avec la partie centrafricaine et le respect de notre mandat.
Autre problème pour vous, Madame la représentante spéciale, la multiplication sur les réseaux sociaux d'attaques contre vos casques bleus, qui sont accusés quelquefois de collusion avec des groupes rebelles. Ces derniers temps étaient visés les casques bleus marocains déployés dans le sud-est du pays, précisément là où venaient d'arriver des paramilitaires russes. Est-ce que ces attaques contre lesquelles vous avez protesté, vous en avez enfin trouvé la provenance, l'origine?
Eh bien, ces attaques, je tiens d'abord à dire, ne sont pas un phénomène nouveau. Sur le territoire centrafricain, à des périodes assez régulières, la mission a fait l'objet d'attaques. Ce sont des attaques de désinformation, clairement, ou de mésinformation. Nous n'en sommes pas les seules victimes, et cela est malheureux, mais aujourd'hui, la désinformation est un phénomène global. Il est clair pour nous que c'est bien sûr ces attaques ont des objectifs stratégiques. Il s'agit de véritablement donner le sentiment à la population que la mission pourrait avoir des objectifs autres que leur protection. Toutes ces différentes attaques, elles ont été mensongères, mais elles n'ont pas été très sophistiquées non plus. Une chose qui est assez impressionnante, c'est le fossé entre ce type d'allégations, ce type d'attaques et les populations qui sont bénéficiaires de notre mandat, le fossé du rendu. Les populations bénéficiaires du mandat, les autorités locales avec lesquelles nous travaillons et qui sont sur le terrain tous les jours, eh bien, elles sont quand même les mieux placées pour pouvoir apporter une évaluation de ce que la MINUSCA fait ou ne fait pas. Donc, ce sont des attaques où nous savons qu'elles ont un but stratégique. Notre réponse à cela, c'est de maintenir le cap sur notre mandat et de continuer à travailler avec la partie centrafricaine.
Alors, si ces attaques ne sont pas très sophistiquées, j'imagine que vous en avez identifié l'origine.
Elles ne sont pas très sophistiquées, mais elles ont des relais. Donc, il ne m'est pas aisé, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que nous avons, nous, fait une analyse pour savoir quelle est l'origine. Ce serait spéculatif. Ce que je peux dire, c'est que je connais les médias qui ont relayé ces attaques, mais je suis convaincue que ces médias les ont justement relayées. Nos équipes vont continuer à faire les analyses nécessaires pour savoir quelle est l'origine de ces différentes attaques.
Vous dites que ces attaques ont des visées stratégiques. Pourraient-elles venir de forces de sécurité qui sont présentes sur le terrain et pour qui la présence des casques bleus de l'ONU est gênante?
Cela ne peut être exclu, mais cela ne peut être établi de manière formelle à l'heure actuelle. Il est clair que nous restons centrés sur notre mandat de protection et sur ce mandat de protection, nous avons enregistré des résultats et des avancées qui parlent d'eux-mêmes.
Donc l'origine pro-russe de ces attaques n'est pas exclu.
J'ai du mal à aller dans la spéculation, je n'irai jamais dans la spéculation tant que nous n'avons pas fini et mené à bout nos investigations internes.
La Cour constitutionnelle privée de toute indépendance, le député d'opposition Dominique Yandoka en prison depuis décembre dernier, l'autre opposant politique Crépin Boligoumba condamné il y a quelques semaines à un an de prison avec sursis. Est-ce que l'espace démocratique n'est pas en train de se réduire en République centrafricaine?
Nous avons également un mandat de monitoring, à défaut d'un meilleur mot français, un mandat de monitoring du respect des droits, y compris du respect de l'espace politique et de tous les droits. Et ce mandat est exercé à travers notre division des droits humains. Et donc, les cas que vous mentionnez ont été suivis de manière très proche par notre division des droits humains. Aussitôt qu'il y a de tels cas, aussi bien la division des droits humains que la division de la justice travaillent avec leur contrepartie nationale. Et moi-même, au niveau politique, je m'engage avec le niveau politique pour m'assurer que les droits des personnes, qu'elles soit leader politique ou non, que leurs droits sont respectés. Et donc, je me suis engagée dans un certain nombre d'actions, ce qu'on appelle dans le jargon onusien « actions de bons offices », dont je ne pourrais vous donner les détails, mais il est clair que notre relation de coopération actuelle, de bonne coopération avec le gouvernement, nous permet également, dans le respect, de pouvoir dire clairement quand nous pensons que les procédures n'ont pas été respectées.
Donc vous ne pouvez pas tout nous dire, mais vous faites des actions de bons offices pour éviter que l'espace démocratique ne se referme, c'est cela?
Tout à fait.
Vous avez appelé au dialogue politique en Centrafrique, c'était récemment à New York, au siège des Nations Unies. Est-ce à dire qu'il y a à vos yeux un déficit de dialogue politique à l'heure actuelle à Bangui?
Eh bien, oui, j'ai appelé au maintien du dialogue dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord de paix et réconciliation, qui est véritablement une pratique régulière. C'est grâce, entre autres, à ce dialogue que les 6 groupes armés et les 3 branches ont été désengagés. Donc, clairement, l'engagement politique est véritablement bienvenu. L'engagement avec toutes les différentes parties politiques est bienvenu, que l'on appelle le dialogue ou qu'on utilise une autre formule. Et donc, il n'y avait absolument rien d'innovant que ce que j'avais dit depuis le début de ma prise de fonction au Conseil de sécurité.
Et quand vous appelez au dialogue, est-ce que vous incluez dans ce dialogue les rebelles de la CPC de François Bozizé qui ont essayé de prendre le pouvoir en 2021 par la force?
Je pense que de toute bonne foi, il faut d'abord leur demander de retourner dans le cadre de l'accord de paix et de réconciliation. Il faut revenir dans le cadre qu'ils ont tous accepté de signer en 2019.
Sur le plan judiciaire, Madame la représentante spéciale, il y a une cour pénale spéciale à Bangui qui est chargée de juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003 et elle vient de décider de lancer un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Bozizé, réfugié en Guinée-Bissau. Est-ce que cette initiative judiciaire peut aider à la paix ou au contraire peut compliquer les efforts de paix ?
Comme vous le savez certainement, la mission, la MINUSCA, soutient activement sur plusieurs dimensions la Cour pénale spéciale, que ce soit dans l'exécution de son mandat, mais nous restons à ce jour le plus grand partenaire de la Cour pénale spéciale. Cependant, au regard de la question que vous me posez, je ne saurais commenter les affaires qui sont en cours. J'ai une obligation de respect de l'indépendance de la Cour.
Valentine Rugwabiza, vous êtes une grande diplomate rwandaise, vous étiez la représentante permanente du Rwanda à l'ONU ces dernières années. Et il y a actuellement sur le territoire centrafricain quelques 3000 soldats rwandais, 2000 pour la MINUSCA et quelques 1000 hommes dans le cadre des relations bilatérales entre Kigali et Bangui. Certains d'ailleurs pour faire la protection rapprochée du président Touadéra. Est-ce que votre nationalité rwandaise facilite le contact avec les autorités centrafricaines? Est-ce que c'est peut-être aussi votre nationalité qui a permis de rétablir une coopération, comme vous dites, productive avec les autorités centrafricaines?
Bien, en réalité, cette coopération productive, elle est basée non pas sur un passeport ou sur une nationalité, elle est basée sur des actions très concrètes à la prise de mes fonctions. Les autorités centrafricaines, ce qui est normal, et le gouvernement, oui, ont attendu de voir où est-ce que j'allais placer mes priorités, mais surtout comment j'allais mettre en œuvre mes priorités et si j'avais l'intention de travailler en très close coopération, puisque notre mandat est un mandat de soutien, est un mandat d'accompagnement, mais ne saurait en aucune manière être un mandat de substitution à ce que sont les obligations de la partie centrafricaine. Donc, je ne pense pas que ce soit mon passeport qui était considéré, mais plutôt les actions et les choix.
Mais franchement, Madame Rugwabiza, le fait que vous veniez d'un pays qui a une coopération très forte avec la République centrafricaine, ça ne vous facilite pas les choses quand même?
Bon, il est clair que je suis personnellement reconnaissante en mon propre pays pour sa contribution et que cette contribution qui est très appréciée par la partie centrafricaine, clairement, oui, vous donne un quota de confiance au départ, mais ce n'est qu'un quota où vous devez démontrer ensuite par des actions concrètes et des réalisations concrètes si effectivement cette confiance octroyée était méritée.
Valentine Rugwabiza, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.